Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, qui a publié « Redécouvrir les physiocrates » chez Odile Jacob, membre du comité éditorial de Pour l'Écho, avec à la une du numéro du mois de mars, « Comment ressusciter la productivité ?» Sacrée bonne question. C'est une question un peu technique, mais c'est le vrai sujet sur le pouvoir d'achat. Il n'y en a pas d'autre. Guillaume Dard avec nous, président de Montpensier Finance et vice-président de l'AFG, Association française de la gestion financière, et Marcus Kerber,
avocat. Essaye d'être productif.
Avocat, professeur de finances publiques et d'économie politique à Berlin. Il est également professeur invité à Paris 1 et président fondateur du think tank Europolis. Juste avant d'évoquer l'état de l'économie allemande, peut-on réexpliquer l'histoire du multiplicateur de France Trésor ? Je n'ai rien compris, me dit cet auditeur.
Alors,
quand il y a effectivement France Trésor lève 8 milliards, mais alors, a eu 60 milliards de demandes.
Je vais être assez synthétique et il y aura des inexactitudes. Mais c'est France Trésor, mais c'est aussi, c'est pas spécifiquement France Trésor. Bon. C'est toute émission obligataire faite soit par un État, soit par une société. Elle annonce qu'elle va emprunter environ, disons, 10 milliards.
Voilà.
Bon. Et il y a un mécanisme qui fait que c'est celui qui fait la meilleure offre qui a un pourcentage par rapport à la demande. C'est-à-dire que si vous demandez, il y a une offre de 10 milliards, puis vous demandez 10 milliards, et on va vous servir un pourcentage de votre demande.
D'accord, d'accord.
Donc, si vous en voulez un peu plus, et que vous pensez, et là, ça devient technique, que vous allez gagner pas 1%, mais 0,25%, parce que l'obligation cotera un petit peu plus cher 5 minutes plus tard, eh bien, vous avez intérêt à en demander un montant énorme pour être servi.
D'accord.
Et comme c'est fait avec des algorithmes très rapides, ce papier est revendu dans la seconde ou la minute suivante sur le marché, et le hedge fund a fait un petit bénéfice. Et donc, cette tendance se produit sur le marché obligataire structurellement, mais particulièrement dans les derniers mois, parce que les hedge funds qui se contentent de très petits gains mais multipliés par des immenses volumes ont une capacité à faire de demandes colossales, ce qui arrange aussi l'émetteur, qui soit France, c'est pas France Trésor spécialement, qui arrange aussi bien France Trésor que le corporate, c'est-à-dire la société qui emprunte, parce que ça lui crée une demande. Et donc, c'est une illusion sur la demande profonde. Ça veut pas dire qu'il y aurait eu un vrai appétit pour 80 milliards. C'est
d'accord,
un
non,
calcul
je comprends.
Sur la proportion estimée de la demande qui sera servie.
Très bien. Je pense que alors, il y a cet auditeur qui, Louis, qui m'écrit « Les Allemands ont fermé leur centrale nucléaire, il faut qu'ils assument les conséquences sur leur économie », m'écrit cet auditeur. Comment vous regardez l'économie allemande aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez qu'elle est durablement, très durablement affaiblie, Marcus Kerber ? Ou comme, alors bon, si Christian Lindner ne fait que de la communication dans les colonnes des échos, prenons les choses à la légère, mais lui, il y voit un bas de cycle avec une économie allemande qui a toujours su rebondir.
Écoutez, hélas, l'économie allemande se trouve dans une phase, je dirais, presque dramatique.
Dramatique.
Pourquoi ? Parce qu'il y a une conjoncture de mauvais éléments qui renforce une tendance déjà assez négative et récessive. Premièrement, cette économie a mal géré, a mal administré et a mal digéré l'octroi des mesures de transformation écologique, il faut le dire. Et ce que proposent les Verts, qui aujourd'hui sont dans ces milieux-là, et non seulement chez les agriculteurs, des éléments extrêmement peu sympathiques et contestés, ont beaucoup contribué à, je dirais, mener une politique presque anti-industrielle. Aujourd'hui,
les Verts ont mené une politique anti-industrielle.
Oui, il faut le dire, une politique qui punit, qui octroie, qui impose. Ce sont des Jacobins dans leur méthode, sur un temps toujours moralisateur, parce que si on sauve la planète, on a tous les moyens, on a tous les pouvoirs. Et les gens qui sont contre cette politique, veulent détruire la planète. Donc, c'est ce moralisme totalitaire, pose également un problème dans le débat politique en Allemagne. Parce que mettez-vous dans la situation de certains lobbies industriels qui ne veulent pas détruire la planète, mais qui veulent augmenter la richesse du monde. Mais à partir du moment où on se sent accusé avec l'industrie en tant que telle de détruire la planète, je dirais, c'est une position rhétoriquement très, très difficile. Deuxièmement, quel est, sur ce plan-là, je dirais, le côté positif de l'interview de M. Lin, que j'ai...
Ma question portait sur l'état de l'économie allemande, savoir si c'était définitif.
Il est tout à fait légitime de dire, je dirais, le rajeunissement, la productivité ne peut venir que de la part de l'investissement privé. Nous devrions ressusciter les forces vives de l'économie allemande par l'investissement privé. Alors, il a raison de débattre ce sujet, parce que du côté des Verts, et notamment de leur grand vedette, M. Habeck, ministre de l'économie et du changement climatique. C'est un ministère. C'est là on administre le changement climatique. Pour donner une nouvelle dynamique à l'économie allemande, il faut s'endetter plus et verser des subsides aux entreprises allemandes.
Écoutez, Lindner dit le contraire. Il dénonce la politique de subvention.
Lindner, heureusement, il est contre, pour des raisons de frein de la dette, de l'endettement en Allemagne, et pour pour revenir aux normes prescrites par le pacte de stabilité, condition préalable pour faire l'union monétaire, mais également parce que la logique, le raisonnement des Verts, plus d'argent par l'État à travers l'endettement pour les entreprises et puis l'économie allemande redémarre. C'est une logique complètement irrationnelle.
J'entends que vous rendez en fait les Verts responsables de l'état de l'économie allemande.
C'est une
vision que j'ai rarement entendue.
Les Verts, c'est une pathologie allemande.
Non, parce que Marcus, on a dit...
pathologie politique allemande.
Je l'ai entendu.
Et je dirais, heureusement, il reste dans un créneau de 15%. Il reste très stable. L'électorat est très stable. C'est une secte, mais les agriculteurs, les milieux industriels, et notamment les PME, qui sont quand même le noyau dur du capitalisme allemand, se révoltent de plus en plus.
Pathologie allemande, c'est une secte, voilà ce que vous me dites. Mais ça veut dire que les explications...
Ce sont des mots que je pèse.
Non, j'entends. Mais ça veut dire que les explications généralement entendues pour expliquer l'état de l'économie allemande, qui est un arrêt des exportations vers l'Asie, et un arrêt d'une énergie bon marché venue de Russie, ces éléments-là, vous les avez même pas cités.
Non, je dirais, ce sont des éléments tout à fait valables.
Valables,
Et qui sont significatifs. On ne peut pas nier que, je dirais, les exportations de l'Allemagne en direction de la Chine ont évolué d'une façon plutôt dégressive. Il est temps, parce que l'Allemagne devrait intégrer dans sa pensée, dans sa politique commerciale, quand même des considérations géopolitiques. Mais ceci concerne le modèle en général. L'Allemagne, définie par Kissinger, est un PIB en quête d'une raison d'être politique. Voilà, parce qu'après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne s'est contentée à s'occuper de son économie et de ne plus avoir des projets impériaux. Heureusement, je dirais. Mais là, on est allé, je dirais, dans l'exercice de ce modèle bien trop loin, parce qu'on a voulu, pendant des années, vivre dans le déni de la réalité russe et de cet impérialisme non négligeable de M. Poutine.
Comment vous qualifiez ?
Inutile de vous rappeler que le chancelier Schröder était devenu le fondé de pouvoir de M. Poutine.
Oui, ça je suis.
Il a noué tout un réseau de relations en Allemagne. Tout ceci est non seulement scandaleux, mais ça montre l'aveuglement politique de l'Allemagne. L'Allemagne doit en sortir. J'espère que c'est pour bientôt.
Comment vous regardez l'état de l'économie allemande? Est-ce que c'est dramatique, comme a dit Marcus Kerber? Est-ce que ce modèle mercantile est peut-être définitivement dépassé?
Oui, je pense qu'on a beaucoup insisté sur le côté mercantile de l'Allemagne, c'est-à-dire sur le fait que l'Allemagne exportait beaucoup.
Oui.
L'Allemagne continue à exporter, l'Allemagne continue à dégager des excédents extérieurs, et l'Allemagne est capable de se reconvertir vers les nouvelles puissances que vont être l'Inde et l'Asie d'une façon générale. Ce que je crois, c'est qu'il y a deux éléments. Alors effectivement, il y a un élément politique, et on voit bien l'alliance historique qui est en train de nouer au niveau européen la gauche de gouvernement avec une écologie radicale est plutôt en train de nuire à l'expression de cette gauche de gouvernement. On le voit en Espagne avec Sanchez qui n'arrête pas de concéder et qui maintenant annonce que pour se maintenir au pouvoir, il va réduire la durée du temps de travail. Donc vous avez une espèce de gauche de gouvernement qui n'a plus les moyens de gagner les élections sans s'allier d'une façon plus ou moins explicite avec des radicaux les plus extrêmes de l'écologie et de moins en moins d'ailleurs dans les radicaux de la lutte sociale traditionnelle. Et donc, en Allemagne, le parti SPD n'existe plus en tant que tel. Il est obligé de s'allier effectivement avec les gens les plus radicaux. Donc la question qui se pose sur un plan strictement politique, c'est comme pour les libéraux, pourquoi est-ce que les sociodémocrates traditionnels historiques sont en train de disparaître ? À part ça, pour l'Allemagne, moi je crois qu'il y a deux éléments à mettre en avant. Le fait que la population allemande est en train de baisser, on est descendu en dessous de 84 millions, elle est en train de vieillir, c'est ce que dit d'ailleurs le ministre.
C'est la raison de la réforme des retraites.
On va faire des réformes de retraite. Et donc, c'est donc à partir de ce moment-là, et le deuxième élément, un modèle qui est obligé de se réfléchir en termes d'épargne pour préparer l'avenir, et sachant qu'il y aura de moins en moins de jeunesse pour répondre à cet avenir, il faudra que ce soit le fruit de l'épargne qui réponde
donc
à cet avenir.
C'est plus un pays producteur, c'est un produit de rentier.
Ça va devenir un pays de rentier. Son problème à l'heure actuelle, c'est ce que je mets souvent en avant, c'est son modèle, sa référence, ça peut être le Japon. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne vient de dépasser le Japon sur le podium des pays les plus, dont le PIB est le plus élevé, et parce que le Japon a commencé, lui, sa lente descente vers un PIB, non pas de moins en moins élevé, mais un PIB qui est en stagnation.
Or, sans immigration.
Hein. Sans immigration.
C'est pour ça que les Japonais resteront japonais probablement seuls au monde.
Le problème de l'Allemagne, c'est que cette épargne au niveau mondial est mal valorisée par le taux de change de l'euro. Mmh. Et je pense que l'Allemagne, dans cette
affaire,
a besoin
d'un euro plus fort.
Elle aurait besoin d'un euro plus fort. L'Allemagne est victime. Non, tout le monde dit que l'Allemagne bénéficie de l'euro, que l'Allemagne a profité de l'euro pour ruiner l'industrie française. Tout ça. L'Allemagne est victime de gens comme Bruno Le Maire, c'est-à-dire de gens qui sont incapables d'équilibrer les finances publiques et de crédibiliser l'euro.
Vraiment, l'Allemagne est victime.
Je veux pas dire. Quand vous êtes un opérateur international et que vous avez comme ministre de l'économie et des finances quelqu'un qui, au G20, au Brésil, vous explique qu'il faut taxer les riches, punir les riches, mettre au pas les riches, qui vous tient des discours pour lesquels Maurice Thorez, le leader du Parti communiste des années 50, aurait trouvé que c'était un peu excessif, qu'il fallait un peu modérer ses propos, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, eh bien, le taux de change de l'euro n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être, compte tenu des excédents extérieurs de la zone euro.
Pas sûr que...
Et la grande victime de tout ça,
c'est l'Allemagne. Je ne suis pas sûr qu'on puisse rendre la France exclusivement responsable du niveau de l'euro.
En partie, c'est quand même...
Sur le modèle économique allemand, il y a quand même, c'est plus qu'un trou d'air, voilà, c'est quand même l'une des récessions les plus marquées en 2023 en Europe, et c'est quand même...
Je ne partage pas le Bruno Le Maire bashing de Jean-Marc, mais néanmoins, effectivement, c'est assez curieux cette déclaration, on ne sait pas d'où c'est venu.
Moi non plus, je ne sais pas d'où
ça vient. Ça me semble pas utile et pas le combat, parce que justement, ça trouble son message. Son message qui est de dire... Même s'il ne le fait pas, dit Jean-Marc. Essayons de redevenir sérieux. Ça ne peut pas s'associer avec des mesures démagogiques. Mais je reviens, réponds à la question sur l'Allemagne, mais je l'élargis un peu à l'Europe parce qu'on a un peu les mêmes troubles.
Ne soyez pas trop long parce que je vous
ai... j'essaie d'aller vite. Mais... le combat
pour... un tyran quand même.
Mais si.
Vous vous assurez qu'il y a des émissions de talk show, vous auriez beaucoup moins de temps pour vous exprimer.
Vous avez un talent.
Bon.
On aime votre talent, Nicolas.
Non, mais ce n'est pas histoire de talent, c'est...
Le sujet de la transition climatique, il est très important. Mais, par exemple, notre conviction chez Montpensier, c'est que la solution viendra beaucoup des entreprises et de la créativité technologique. C'est ce que disent les plus grands savants américains. C'est-à-dire qu'il faut faire des progrès. L'humanité a répondu chaque fois à ces défis par une créativité technologique qui permet de changer la donne. Hein. Il faut effectivement, donc là, le message de dire... Allons plus grâce aux entreprises. Je sais pas, il y avait... moi, j'ai investi indirectement dans une société qui fait... vous prenez tous les déchets et vous les transformez, vous les lyophilisez d'une certaine façon et ça vous donne comme un petit caillou. Ça s'appelle... je sais plus quel est le nom. Néolithe, la société. Bon, voilà. Alors qu'actuellement, on enterre les déchets...
Avec le caillou, on construit des maisons ?
Ben, on peut en faire autre chose, d'accord, en tout cas, et puis c'est moins sale et ça dure. Non. Donc il y a plein de solutions technologiques qui sont en train de se développer. Et il faut de l'argent privé, et peut-être quand même un peu en France, un peu de soutien derrière, mais à condition que ça ne soit pas un projet top-down avec de l'argent donné à n'importe qui et qu'on accompagne les choses. Je pense que les Français sont conscients de ça et qu'il faut aller. Deuxièmement, là aussi, dans l'interview de Linder, il le redit... Et on l'a dit 100 fois ici, si les États-Unis, c'est l'intelligence artificielle, que la Chine, c'est la voiture électrique, et que l'Europe, c'est uniquement taxation, réglementation, on va pas en sortir. La place de l'Europe, c'est pas une histoire de déficit budgétaire, puisque si le déficit budgétaire et la dette c'était la solution, ben on serait champion du monde en France. Et on est passé en 20, en combien de place 26e maintenant.
À quel niveau de
PIB par habitant?
Guillaume, j'entends avec respect, admiration votre discours, mais simplement regardez un tout petit peu ce que fait la Commission européenne, ce qui sont les propos de la Commission européenne.
À quoi pensez-vous, Marcus Kaber?
Elle a toujours recours à une seule chose, l'endettement public. Alors, New Generation EU, un immense fonds avec 800 milliards, elle n'arrive pas à le dépenser. Elle a dit, mais écoutez, on va accorder de ces 800 milliards 200 milliards à l'Italie. L'Italie, aujourd'hui, se trouve avec un déficit de 7,2% actuel. C'est gigantesque.
C'est le déficit quoi, ça? C'est le
déficit par rapport au PIB. Voilà, c'est extraordinaire.
On est à plus de 7% en Italie.
Les chiffres sont complètement erronés. Monsieur Giorgetti a apparemment mal maîtrisé la planification budgétaire en Italie. Donc, plus on donne de l'argent, plus on dépense. Et nombreux sont les appels de certains maires en Italie qui veulent faire appel à ce fonds NGEU pour construire des stades. Donc, je dirais, la méthode d'avoir recours
à l'endettement
est une méthode quand même qui s'est avérée totalement inefficace.
C'est parce qu'ils ont battu les Allemands au football.
Et en même temps, le commissaire français, M. Breton, rêve d'un fonds de 100 milliards financé par l'endettement de l'Union européenne, qui était qualifié pour NGEU comme un cas complètement unique dû à la pandémie, pour financer l'investissement dans l'armement. L'armement, la défense, ce sont des domaines qui relèvent de la compétence des nations.
Des
nations souveraines. Donc il parle d'attribution...
Votre ministre est favorable à la nomination d'un commissaire à la défense.
Elle a un passeport allemand, mais elle est née dans ce milieu bruxellois. Peu populaire en Allemagne.
Marcus, est-ce que l'euro est devenu un problème pour les Allemands? En rebondissant sur ce que disait Jean-Marc Daniel, est-ce qu'aujourd'hui l'euro est un problème pour les Allemands?
Problème, oui, parce que pour des raisons d'épargne, ce n'est pas à sa juste valeur. Je dirais, les excédents allemands, toujours existants en commerce extérieur, ne sont pas reflétés dans la valeur de l'euro, mais sont bouffés, pour ainsi dire, par les déficits de la balance commerciale d'autres pays dans la France.
Je ne vois pas de qui vous voulez parler.
Alors, l'Allemagne qui a profité de l'euro est donc vraiment un discours qui profite de l'asymétrie de l'information et du problème de compréhension des problèmes monétaires.
Mais admettons
L'euro est devenu non seulement un problème pour l'Allemagne, c'est devenu également un problème pour les pays qui sont en quête d'exporter et pour lesquels l'euro est trop cher. Voilà, j'étais en Autriche, j'étais en Slovaquie, j'étais à Prague, dans ces pays que un certain genre de journalistes en France qualifient comme petits pays, il y a un débat sur l'utilité de l'euro, parce que nous voyons quand même des taux d'inflation totalement différentes entre l'Estonie et l'Italie. 10%, 0,9%, c'est-à-dire la zone euro reste une zone industriellement totalement hétérogène qu'on va traiter et maltraiter avec une politique monétaire unique dans la Banque Centrale Européenne.
Il n'y a pas d'autre solution.
Oui, mais c'est une conception erronée dès le début.
Mais l'euro est trop fort ou trop faible?
Ça dépend des pays, le costume monétaire n'est pas adapté à la compétitivité, l'hétérogénéité industrielle de l'Europe. Nous avons perdu le mécanisme d'évaluation compétitif et de ce fait-là, un certain nombre de pays sont dans un costume monétaire inadapté.
Totalement d'accord, mais on fera le même constat tant que nous fonctionnerons avec la même monnaie. Ça ne changera pas. Il y aura une banque centrale pour... Il y aura toujours un t-shirt à taille unique pour des gabarits différents.
Il faut en discuter. Ah. Aujourd'hui, c'est un tabou, notamment en France, où on considère l'euro égal à l'abolition de la Deutsche Mark comme un grand acquis. Mais je dirais, le moment viendra où ce costume monétaire gêne beaucoup de gens. Et c'est pour ça que je vous ai parlé des soi-disant petits pays.
C'est l'intérêt des Français de l'avoir. Mais
aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour, parce que l'Europe, avec cette terrible guerre en Ukraine,
c'est pas à l'ordre du jour.
A, je dirais, un agenda déjà très, très chargé, et nos démocraties sont apparemment, je dirais, un peu surchargées.
Aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais...
Ça viendra à l'ordre du jour.
Vous me dites que l'euro est mortel et que...
Non mais, Nicolas...
La mort est certaine.
La mort est certaine, la date n'est pas connue.
Juste
vous entendez
un mot,
ça, Guillaume Dard. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
S'il n'y a pas l'euro pour la France, France s'effondre, l'économie française s'effondre immédiatement.
Ça, on est d'accord. Sans l'euro, je peux vous assurer qu'on ne parlerait même pas des adjudications France Trésor, parce que probablement...
la mort est certaine, évidemment, tout est mortel, mais je ne pense pas que l'euro soit menacé à court moyen terme. Et les défauts initiaux de l'euro, on les savait d'emblée, c'est-à-dire que...
Oui, mais on avait plein d'espoirs qui ont été déçus.
Il y a eu plein d'espoirs qui ont été déçus.
Ceux qui vous disaient ça va être le moteur d'une Europe budgétaire, d'une Europe sociale, d'une Europe ceci, d'une Europe cela. Bon,
puis ça ne s'est pas produit, parce qu'il y avait un certain nombre de règles du jeu, et il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas respecté ces règles du jeu. Ça ne veut pas dire pour autant que le projet initial était systématiquement condamné, d'une part, et d'autre part que finalement, il a globalement échoué. Ce que je disais simplement, c'est qu'effectivement, dans le discours qu'on met en avant souvent en France, on considère que la France est une des grandes victimes de l'euro parce qu'elle ne peut pas dévaluer pour améliorer sa compétitivité, d'une part, et d'autre part parce que l'Allemagne, il y a une monnaie sous-évaluée par rapport à ce qu'elle devrait être s'il n'y avait pas l'euro. L'Allemagne est un concurrent qui est un concurrent extrêmement virulent de la France sur ses propres marchés et dans les marchés extérieurs. Donc ce raisonnement est un raisonnement, à mon avis, absurde. En revanche, je pense que compte tenu des excédents extérieurs de l'Allemagne, et globalement, compte tenu des excédents extérieurs de la zone euro, parce qu'on parle de l'Italie...
Qui sont très largement allemands.
Mais pas exclusivement.
Pas exclusivement.
Oui, il y a les Italiens qui sont d'excédents. Les Espagnols sont à l'équilibre.
Les Hollandais
ont un excédent considérable. C'est la France qui est le véritable déficit en balance des paiements courants. Et donc, l'euro devrait avoir une plus grande, un taux de change plus élevé. Et c'est dans la situation de l'économie allemande et de la démographie allemande, ça correspondrait aux intérêts de l'Allemagne. Donc, je pense que indépendamment des défauts de constitution et des problèmes de compétitivité relative qu'il peut y avoir d'ici ou là dans la zone euro, je pense qu'il y a quand même, pour l'Allemagne, un sacrifice qui est fait du fait qu'elle ne pourra pas avoir les mêmes avantages qu'a eu le Japon de l'évolution de son épargne.
Rapide, Guillaume, je veux avoir un mot sur le couple franco-allemand. J'ai plein de réactions.
Oui, il y a un point quand même qui est très important, où je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec Jean-Marc, c'est que Jean-Marc dit qu'il faut que l'Allemagne mette son argent à l'étranger. Il y a quand même l'union des capitaux n'est pas suffisamment faite en France.
Ça, c'est
et
vrai.
Donc, nous, à l'AFG, on a lancé une initiative PME 2030. Les entreprises cotées françaises de petite taille sont en train de souffrir horriblement parce qu'il n'y a plus de flux. Un des grands succès, il y a longtemps, en France, ça avait été le second marché. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont en train d'être achetées par le private equity. Il y a des bons investisseurs de private equity. Donc, ils prennent les meilleures entreprises. Elles ne sont pas cotées. Et finalement, elles partent à l'étranger d'une façon ou d'une autre parce que ces fonds sont essentiellement internationaux. Donc, on a une priorité et le sujet n'est pas si différent en Allemagne, donc de raviver le marché des PME cotées en Europe. Il faut absolument... Et donc, nous, on pousse une initiative à ce qu'on redonne une sorte d'avantage, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un avantage spécifique pour faire des placements sans risque avec un avantage fiscal, alors que si on irrigue de capitaux notre terrain d'entreprises dynamiques et de moyenne taille, et ben sinon elles partent ce côté à New York où elles sont mangées par le private equity anglo-saxon.
Avec l'union des capitaux, on ne va pas gagner la guerre en Ukraine. Hein. Je dirais que c'est un projet à long terme qui mérite réflexion. Je suis tout à fait d'accord avec vous. À court terme, l'Europe est face à ce terrible conflit. L'Europe est mal préparée. Et en plus, comme M. Dose le dit, les deux pays majeurs, la France et l'Allemagne, sont, paraît-il, brouillés.
C'était le dernier sujet sur lequel je voulais vous
en effet s'interroger si oui ou non le chancelier allemand a la à la dimension de sa fonction.
Ça, c'est un autre sujet.
Je dirais oui. Mais il a un langage, je dirais parfois, pas trop prudent, disons-le comme ça.
Que voulez-vous
et
dire?
Ce qui s'est passé là, du côté de l'armée de l'air, c'est-à-dire d'être mis sur écoute par les Russes, c'est impardonnable. Impardonnable. Et des peines disciplinaires les plus strictes devraient frapper les responsables. Et ça
mais
devrait
ça arrivera venir... peut-être. Ça arrivera peut-être. Mais au-delà ça... de ça. Mais Marcus, le couple.
Par contre, le président français, je dirais, qui n'excelle pas dans une discipline verbale extraordinaire, devrait également, je dirais, peser ses mots. L'Allemagne et la France, dans cette situation, sont obligées de s'entendre. Autrement, l'Europe sera totalement paralysé. C'est pas le Luxembourg qui fait la paix dans cette guerre. Et ce n'est pas d'autres pays que je renonce à qualifier qui seront un élément décisif. Je trouve le comportement des deux chefs dont je m'interroge, qui sont des vrais chefs, irresponsables. Surtout irresponsables.
Les deux.
Et je trouve, pour être vraiment crédible en matière de critique, le comportement belligérant de l'Allemagne, j'ai même mis belligérant entre guillemets, lamentable. L'Allemagne doit quitter cette zone de confort et doit accepter le politique. Et la politique, ça veut dire quoi ? C'est la distinction entre amis et ennemis. L'Allemagne avait suivi une politique, nous faisons un PIB, on fait du commerce avec tout le monde, et comme c'est tellement confortable, tout le monde va nous aimer. Alors M. Poutine, à un moment donné, en pleine autonomie, a décidé une invasion. Et le chancelier allemand était intellectuellement totalement impréparé. Et je vous rappelle que le président français parlait très longuement, ou très souvent, de la nécessité de respecter M. Poutine. Il a fait son pèlerinage à Moscou devant cette immense table où il a tutoyé M. Poutine en disant « Vladimir, tu vas quand même pas faire la guerre ». Alors, nous, les Occidentaux, on s'est complètement trompés sur cette situation parce qu'on n'a pas voulu en face un ennemi. Un ennemi qui décide en totale
Marcus,
autonomie la déclaration de guerre.
Qu'on le veuille ou non, il faut préserver le couple franco-allemand. Qu'on le veuille ou non, c'est la seule solution.
Il faut trouver une coopération équilibrée, raisonnable, et je fais confiance aux soldats des deux armées. Et quant aux soldats français, j'ai une estime extraordinaire. Les forces armées fonctionnent.
On a fini.
Je ne peux pas dire la même chose de l'armée allemande.
Et vous m'aviez dit un jour que l'armée allemande serait être au rendez-vous.
Vous vouliez dire une dernière
chose. Non, je ne sais pas si vous avez une dernière réaction. Il reste 40 secondes.
Juste.
Sur le couple franco-allemand, c'était le sujet.
Sur le couple franco-allemand et sur la
diplomatie. Mais vraiment très, très, très vite.
Très, très, très vite. Les déclarations du président de la République à Prague et tout ça, c'est pas de la diplomatie, c'est de la politique intérieure. Il s'agit de dire qu'il y a ceux qui sont aux prochaines élections européennes, ceux qui se seront soumis à Poutine et ceux qui ont résisté à Poutine. C'est-à-dire son principal adversaire aux prochaines élections européennes, c'est le Rassemblement National. Et toute une partie de la campagne consiste à dire que c'est le parti de Poutine. Et donc, tout est organisé autour de ce discours.
Bon, allons vers une Europe plus productive et qui soit solidaire et capable d'être respectée. Et on a du travail et on est en train d'assister à une bureaucratisation de l'Europe. Il faut vraiment aller vers. On parle de simplification en France. Parlons de simplification sur l'Europe. Je crois que les tracteurs et agriculteurs à Bruxelles, c'était un bon message.
Merci Marcus Carabin, m'écrit cet auditeur. Bon séjour chez les cigales. Il s'appelle Patrick. J'ai eu énormément de réactions après votre analyse de la situation allemande pour laquelle vous rendez les Verts responsables. Je dois avouer qu'on n'avait pas l'habitude de l'entendre ainsi. Voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. Personne n'a écrit « C'est pas grave, l'Allemagne paiera ».
Bon. Heureusement. Et elle paye, là.
Elle paye.
Merci Jean-Marc Daniel à la une de Pour l'Écho. Comment réussir à la productivité? C'est le numéro du mois de mars. Merci Guillaume Dard. Merci Marcus Carbert. Demain, 9h.